La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Après un petit retour en France, la dernière émission qui vous a proposé de faire la connaissance de quelques réalisatrices, scénaristes du début du XXe siècle, comme Musidora, Germaine Dulac, Jacqueline Audry, entre autres, je vous propose de quitter notre pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et nous en profitons pour nous arrêter en Italie. Mais oui, l'Italie, car le cinéma à l'italienne, ce n'est pas seulement les réalisateurs masculins bien connus, nés au début du XXe siècle, tels que Fellini, Antonioni, Dino Risi ou Visconti, ni même ces pionniers réalisateurs nés fin XIXe siècle, nommés Calcina, Alberini, Ambrosio ou Caserini. Et non, il n'y a pas que des hommes, vous rencontrez également des femmes. Alors c'est par exemple Giulia Cassini-Risotto, Elvira Notari, Elvira Giallanella, Francesca Bertini et Bianca Virginia Camani. Alors des femmes réalisatrices, mais aussi actrices, scénaristes, productrices. Alors voyons déjà qui est Giulia Cassini-Risotto, à part une Italienne née en 1865, presque au milieu du 19e siècle, ce n'est pas rien. Alors, il se trouve qu'elle était l'une des actrices de théâtre, puis de cinéma les plus réputées de son époque. Elle fut également professeure de théâtre, écrivaine de nouvelles, jusqu'à devenir scénariste, réalisatrice et productrice. Alors, il faut dire qu'elle était née au sein d'une famille d'artistes, puisque son père, Giuseppe Risotto, était acteur, fut également directeur d'une troupe de théâtre et dramaturge, ce qui aide quand même à débuter et progresser dans une activité, surtout comme celle-ci. Et de plus, son frère Salvatore devint lui aussi comédien de théâtre, ce qui veut dire qu'ils ont sans doute été initiés tout jeunes par le papa. Alors de plus, il est dit que Giulia a côtoyé les plus grands comédiens italiens de théâtre de son époque. Alors nous comprenons tout de suite qu'elle était en bonne école. Et de plus, sans doute dans la foulée, elle s'initiera à la mise en scène. Et c'est dans ce milieu du théâtre et du spectacle qu'elle rencontrera son futur mari, un tragédien nommé Alfonso Cassini, avec qui elle aura deux enfants. Alors ils continueront ensemble leur carrière et obtiendront succès et reconnaissance. Jusqu'au moment où le cinéma fait incursion dans les vies de tous ces artistes de scène pour les séduire et les conduire à s'orienter vers ce nouveau mode d'expression. Alors les Cassini ne sont pas en reste et il se trouve que Giulia abandonnera même sa belle carrière de comédienne de théâtre pour se consacrer au cinéma, assez tardivement d'ailleurs pour elle puisque nous sommes en 1912 et qu'elle a déjà 47 ans. Et à partir de ce moment, elle jouera surtout les seconds rôles, des rôles de mère principalement. Elle débutera sa carrière cinématographique à Rome avec la Latium Film, donc c'est le nom de ce studio. Elle tourne bien évidemment à cette époque dans des films muets. Puis elle changera de studio de cinéma pour tourner avec son mari à la Roma Film dès 1913. Alors, ils joueront et collaboreront à ce que l'on peut appeler des intrigues amoureuses. Giulia est toujours un second rôle, ce qui va changer à partir de 1914, lorsqu'ils rejoindront tous deux le studio de cinéma Etna Film. Et là, c'est la rencontre avec un vrai succès pour une interprétation d'une femme de pouvoir intransigeante nommée Xenia, qui s'éprend d'un jeune homme nommé Christus, lui-même épris d'une autre femme en Sicile, 1000 ans après la naissance du Christ. Et ce film s'intitule d'ailleurs Christus, la Sphinx dello Jonio, que je traduis par le Sphinx de l'Ionienne, écrit et réalisé par Giuseppe de Liguro. Alors la critique est à ce moment élogieuse et la comédienne est applaudie pour sa performance. Alors elle est toujours avec son mari, Bon, la guerre les ramène à Rome. Il collabore avec Tiber Film, puis avec une autre société de production spécialisée dans des films historiques. Ses apparitions sont toujours remarquées et applaudies. Et c'est en 1918 qu'elle se dirige vers l'enseignement dans une école romaine de théâtre et de cinéma. Alors, elle-même avait déjà ouvert une école en 1916 à Florence, l'Artistica Scuola Film, qui deviendra, à ces époques, une école très renommée pour la formation d'acteurs de cinéma. Et c'est aussi à partir de 1918 qu'elle se lance dans la réalisation. Or, son premier film s'intitule Scugni, qui raconte les mésaventures d'un jeune homme à Naples. Et ensuite, en 1919, elle tournera un film sur la vie du peintre Léonard de Vinci. En 1920, elle réalise encore deux films, l'un intitulé Senza Sol, sans soleil en français, et l'autre La Piccola Manon, la petite Manon. Ce dernier, bien apprécié par la critique, qui fera des éloges en soulignant les compétences de la réalisatrice. Et son cinquième et dernier film, réalisé en 1921, s'intitule « A Mosca Cieca ». Bon, je crois qu'on peut la traduire par « mouche aveugle », hein, je ne suis pas sûre. Alors, j'ai cherché à en savoir plus sur ce film, hein, sans grand succès. Et pour celui-ci, elle écrira également le scénario et jouera un rôle. Alors, c'est un film qui traite apparemment de la vie des saints. Il a été produit par la San Marco Film de Rome, une société de production plutôt orientée sur les films religieux et en plus financée en partie par le Vatican. Mais apparemment, ce film, malgré son succès et ses critiques favorables, déplaît à certains membres du clergé qui demanderont à ce qu'il soit retiré de la circulation. Alors le mari de Giulia Cassini-Risotto décède en 1921. Elle continue cependant de jouer pour finalement s'expatrier en Argentine avec une compagnie théâtrale dirigée par une comédienne, réalisatrice, adaptatrice de théâtre nommée Maria Melato. Et elle ouvrira à Buenos Aires une école de théâtre qu'elle dirigera jusqu'à sa mort en 1943. Elle avait 78 ans. Alors voilà le cursus de cette artiste, hein, créatrice avec une vie bien remplie au service de son art, la comédie, la tragédie, mais aussi au service du développement cinématographique en Italie. Alors une petite pause musicale nous fera le plus grand bien. Nous allons rester dans l'ambiance cinéma, muet, puisque je vais vous faire écouter une musique spécifiquement créée pour être joué en même temps que le film muet. Alors, une autre femme, Elvira Nuttari, née Maria Elvira Giuseppa Coda en 1875, il est dit qu'elle est la réalisatrice et scénariste de 60 courts et longs métrages et documentaires entre 1906 et 1919. Alors, c'est véritablement encore là une pionnière du cinéma muet italien. Alors, elle débutera dans la vie comme modiste, épousera un peintre nommé Nicola Nuttari et tous deux fonderont dans les années 20 une société de production intitulée Dora Film. Bon, apparemment, ce qu'elle aimait, c'était filmer la réalité qui l'entourait et notamment la vie des Napolitains. Et elle s'attachait surtout à mettre en scène les Napolitains issus des classes les plus défavorisées où se rencontrent les problèmes de société. Alors, pour arriver à ses fins, elle fera tourner sa famille en participant parfois elle-même en tant qu'actrice. Et c'est cette manière de mettre en lumière la réalité qui fera qu'elle sera censurée par le régime fasciste en place. Dérangée par des images de pauvreté, de gens au vécu difficile, si bien qu'il taxera ses films d'anti-nationalistes. Alors le stratagème pour échapper à la censure sera trouvé par son fils, Eduardo Nuttari, qui fondera la Dora Film d'America, ce qui permettra à Elvira de diffuser ses films aux États-Unis, à New York, pour recevoir sur place l'adhésion et l'approbation de la communauté italienne. Et après cette carrière assez productive, elle décédera en 1946, à l'âge de 71 ans. Or, sa production et matériels ont été légués par sa famille en 1998 au Musée international du cinéma et du spectacle de Rome. Or, que dire d'autre de sa production et de ses films ? Eh bien, j'ai lu que sur la soixantaine de films réalisés, il n'en restait que trois et qu'elle s'est arrêtée brusquement de tourner en 1930, sans doute avec l'avènement du parlant. Alors, je citerai dans ses films tirés des nuits napolitaines celui intitulé « La Petite » ou cet autre intitulé « La Sainte Nuit ». Alors, avant d'aller plus loin, plantons quand même un peu le décor du cinéma italien, ce qui est de circonstance ici, vu le sujet de vouloir planter un décor. Bon, il faut dire que le cinéma en Italie a aussi plus ou moins été impulsé par les frères Lumière. Les Italiens en furent très friands autant qu'ils furent productifs. Les cinéastes ont débuté fin du 19e siècle avec des courts-métrages, plutôt sur les actualités et les personnalités en vue de l'époque. À partir du tout début du 20e siècle, les sociétés de production se sont multipliées dans les grandes villes comme Rome, Milan, Turin et Naples. Les genres aussi se sont multipliés, du cinéma réaliste avec les thèmes sociaux au péplum grand spectacle, ou ceux inspirés par le courant avant-gardiste qu'est le futurisme, ou par la mise en valeur de divas plus ou moins tragiques. Et à partir de la Première Guerre mondiale, c'est le film de propagande qui fait son apparition. Puis après la guerre, le régime fasciste fonde en 1925 l'Institut Luce, un institut dont la fonction est de diffuser au niveau national, voire international, les films d'information et d'éducation. Et c'est en 1930 que sortira le premier film parlant, La canzone dell'amor, la chanson de l'amour, du réalisateur-acteur Gennaro Righelli. Alors en 1935, la cité du cinéma, l'incontournable Cinecittà, voit le jour dans le sud-est de Rome sous la bénédiction de Mussolini. Le néo-réalisme, qui est un mouvement littéraire et cinématographique, se développe. Et c'est le coup de projecteur sur la réalité quotidienne d'un peuple qui survit laborieusement. Alors interviennent dans les productions les réalisateurs, voire comédiens que nous connaissons tous, hein, comme Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, entre autres. À partir des années 50, c'est encore une autre forme de cinéma qui s'impose, cette fois plus introspective que réaliste, ou bien des comédies à l'italienne. Bon, je n'irai pas plus loin dans le temps, hein, simplement. Mais il me semblait utile de montrer le contexte dans lequel ces femmes du début du XXe siècle ont pris leur envol, car elles sont bien présentes. Et comment le cinéma, par la suite, a évolué, histoire de se rendre compte que les Italiens ont été quand même très créatifs. Et par contre, la présence des femmes réalisatrices ou productrices me semble plus discutable lorsque le cinéma a été investi par la gente masculine. Alors, je vous propose maintenant d'écouter la chanson qui a accompagné le premier film parlant du cinéma italien, que j'ai cité plus haut et qui s'intitule La canzone dell'amore, la chanson de l'amour, film de 1930. La chanson créée par le compositeur italien de chansons italiennes et musique de film Andrea Bixio s'intitule Solo per te Lucia, seulement pour toi Lucia, et est interprétée par le ténor italien Beniamino Gigli. De repartir à la découverte d'une autre scénariste, réalisatrice, productrice italienne. Celle-ci est née en 1885 et donc toujours à la fin du 19e siècle. Il s'agit d'Elvira Gialanella. Alors, elle a débuté une vie professionnelle au sein d'une société de production de films, La Vera Film, en tant que secrétaire. Elle tournera un film en 1919. Apparemment son premier et dernier, intitulé L'Humanité. avec des vedettes qui sont des enfants. Et il s'agit d'un film contre la guerre. Et les deux héros sont des enfants qui se retrouvent seuls sur Terre au milieu de décombres. Alors le contexte est tragique et le restera au cours du film. Mais si l'histoire est tragique, elle met en relief la fraternité et le rejet de la destruction humaine. Alors elle s'est inspirée d'une histoire écrite par un journaliste, écrivain, scénariste, nationaliste adhérent au fascisme nommé Vittorio Emanuele Bravetta, dont la production artistique tournait autour de l'enfance, de la guerre et de ses implications politiques. Et le titre de son ouvrage, illustré de dessins d'un dessinateur nommé Golia, et de ses poèmes est présenté comme suit « Tranquillino, après la guerre, il veut créer le monde à nouveau ». Aussi Elvira Gialanella, dont l'enfance est au cœur de ses préoccupations, s'empare de l'histoire pour créer son film. Et pour encore mieux répondre à ses objectifs de faire des films pour enfants par des enfants, elle fonde sa société de production, la Liana Film, du nom de sa nièce bien-aimée. Mais il semblerait qu'elle n'ait pas pu mener à terme ses projets. En tout cas, dès 1920, on n'entend plus parler d'elle. Nous savons qu'elle est restée célibataire et qu'elle est décédée à Rome à l'âge de 80 ans en 1965. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une musique italienne très connue dont l'origine est sujet à controverse, car pour les uns, cette chanson aurait été dès le début du XXe siècle celle de la révolte des Mondines, ces ouvrières italiennes travaillant dans les rizières, et pour d'autres, c'est le chant des partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors les paroles étaient différentes, mais la musique est la même. Enfin, quoi qu'on en dise, cette chanson intitulée « Bella Ciao », « Belle au revoir », est devenue un hymne à la résistance. Alors, le chant des partisans reste la version qui a été reprise par de nombreux interprètes, dont Yves Montand, d'origine italienne lui-même d'ailleurs. Bella Ciao a été chantée dans une série espagnole contemporaine, genre thriller, qui a débuté en 2017 et qui s'intitule La Casa de Papel. Et je vous propose une interprétation italienne plus traditionnelle. Alors écoutons Bella Ciao qui commence par ces mots que je traduis en français. Un matin, je me suis levée, ô belle, au revoir, belle, au revoir. Un matin, je me suis levée et j'ai trouvé l'envahisseur.
Stamattina, mi sono alzato, ô bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina, mi sono alzato. E ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Eh bien, nous allons nous quitter sur ces notes entraînantes, hein, mais c'est mieux pour nous retrouver et surtout retrouver nos créatrices de cinéma italien la prochaine fois. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous sous le soleil d'Italie. Merci de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.